Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Et puis je vais continuer la suite de ce que j'ai entamé hier. Parce que la suite était très importante, ce qu'on a entamé hier. Nous sommes sur l'intelligence pratique. Pour le succès, on n'a pas pu terminer. On s'est arrêté sur le fait d'avoir, on a déjà eu le mentor, qu'on maintenait une image juste. On va revenir sur l'image juste, ce qu'on appelle la remotivation. Comment arriver à se remotiver. Et ensuite, nous verrons, si Dieu le permet, développer une épaisseur psychologique. Avoir ce qu'on appelle la solidité psychologique et émotionnelle. Parce qu'en fait, on ne peut pas connaître le succès si on n'a pas une grande solidité psychologique et émotionnelle. On verra comment réussir à dominer les souffrances que nous connaissons, comment réussir à encaisser l'échec ou le rejet et ensuite à les dominer. On verra plus tard l'incompréhension, le stress, l'absence d'organisation. Comment arriver à dominer même si on a une structure qui ne s'est pas organisée. Comment faire en sorte que malgré l'inorganisation, le désordre, comment réussir quand même à dominer, à transcender. On verra cela. Et puis nous verrons également l'aspect physique. Et puis je vous parlerai un peu de les aspects de l'intelligence qui sont divisés en trois aspects. Tout ça, on fait. Vraiment, c'est très dense. C'est très dense. Alors, je fais le résumé en commençant par le commencement. Nous avons vu, à partir de jeudi dernier, nous avons vu les sept étapes vers le succès ou pour le succès. Les sept étapes. Et j'ai montré que, à travers la parole de Dieu, que le plan de Dieu est que nous connaissons le succès à tous égards. Dieu l'a rappelé déjà dans Josué. Il dit que ce livre, la loi, ne se met pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Enfin que tu réussisses dans ton entreprise, que tu aies du succès. Il dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc en clair, le succès fait partie du plan de Dieu. Je le dis parce que c'est un évangile. Il peut nous amener à penser, oui, ce n'est pas nécessaire. Oh, ça c'est vraiment pour les choses du monde. Non, Dieu n'a pas besoin de cela et tout cela. J'étais en train de discuter avec un frère, puis on parlait un peu de c'est un passage biblique qui sort de leur contexte, qu'on sort de leur contexte et qui justifie c'est un immobilisme. Par exemple, on a pris le passage, quand j'étais avec lui, dans Matthieu, le Seigneur dit que ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien, parce que Dieu prend soin de vous, parce que les oiseaux, les moineaux, qui les servent de moissonne, votre Père les nourrit et ils ne font rien. Donc, vous voyez, quand quelqu'un prend un passage comme ça, qui le sort de son contexte, il va dire, Jésus lui-même a dit, le Fils de Dieu lui-même a dit, de ne pas s'inquiéter pour de ce qu'on va manger ou ce qu'on va boire. Parce que ces soucis-là, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Parce que Dieu prend soin des oiseaux, qui les sèment et les moissonnent. Donc, quelqu'un va dire dans son esprit, ah, dans ce cas, je peux être nourri sans travailler. Parce que Dieu va toujours pouvoir à mes besoins, quelqu'un viendra, il va taper ma porte pour me donner à manger. Ne prenez pas, ne sautez pas la tête de ce contexte. Hein. Lisez très bien. Le Seigneur était en train de penser à ceux qui se créent des stress, à réfléchir sur leur vie et à se tuer littéralement en se répétant sur eux-mêmes. Mais il n'a jamais dit de ne pas travailler, de se croiser les bras et d'espérer que des gens viennent vous bénir. Il n'a jamais dit ça. Parce que à la suite, plus tard, il dit, quand tu veux construire une maison, il faut t'asseoir, il faut calculer. Ça veut dire le Seigneur est d'accord pour qu'on construise des belles maisons. Tout à fait. Donc, vous comprenez que quand un passage est sorti de son contexte, bien entendu, je comprends que ça a été prêché à une époque. Parce qu'il faut se connaître l'histoire de l'Église, comment est-ce que l'Église, l'Évangile est venu dans le contrée. Et vous savez que la manière dont l'Évangile est entré dans nos pays et qu'il a été prêché n'était pas la même manière qu'il a été prêché dans les pays anglophones. Vous voyez, l'Évangile en Afrique francophone est venu à partir de la France, qui est elle-même pays assez influencé par le catholicisme, très influencé par le catholicisme, alors que les pays anglophones sont influencés par le protestantisme. Donc, ils ont compris l'idée de travailler, de s'émanciper et de pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pourquoi même quand on parle d'argent à l'église dans les pays francophones, c'est un peu différent la manière dont ils parlent dans les pays anglophones. Même le travail est différent. Dans les pays anglophones, vous aurez des pasteurs qui sont docteurs, qui sont à l'université, qui sont des médecins. Ou bien est-ce que je me trompe? C'est pas faux, c'est vrai. Au Nigeria, vous avez beaucoup de pasteurs qui sont vraiment des chefs à l'université et qui continuent à exercer le ministère pastoral. Et qui sont ceci, qui sont cela. Dans le monde anglophone, on a dit oui, bon, il faut la consécration parce que tout ça, c'est pas utile parce qu'on va laisser ça, on va aller au ciel. Mais non, le Seigneur veut que nous soyons sur la terre. Et sur la terre, il veut connaître des principes pour avancer. Je prépare vos cœurs pour savoir que le succès n'est pas réservé à ceux qui ne sont pas dans la foi. Ou le succès n'est pas Je dis, une manifestation de ceux qui sont dans la chair, le succès est tout à fait avec Dieu parce que Dieu est un Dieu de succès. Il faut dire amen avec moi. Ouais, les personnes qui ont marqué l'histoire de la parole de Dieu, les grands leaders dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, sont des personnes qui ont connu du succès. Pensez à un homme comme Abraham. La Bible déclare que Dieu l'avait béni en tout. Donc, ouais, il a connu le succès à tous égards. C'est là que je tire mon thème. Il a été béni en tout. Il a connu la gloire, l'argent, tout. Il a été béni en tout. Son fils Isaac a été béni en tout. Jacob a été béni en tout. Le fils de Jacob, Joseph, qui est né et qui a grandi, enfin, qui est né, qui a dominé l'Égypte, a grandi en tout. A été béni en tout aussi. Prenez David. Dieu dit que David a été rassasié des jours. Il a mené quelque chose de plein. Même Salomon qui est mort de la déconner, plus tard, il est revenu au Seigneur. Donc vous comprenez que ces grandes personnes-là, qui sont des témoignages pour nous, qui parlent pour nous, qui sont des témoins pour nous, doivent être vus comme des modèles. Et même dans le Nouveau Testament aussi. Dieu a rendu les gens prospères. Regardez ceux qui entouraient le Seigneur Jésus. Il était des femmes comme Souza, comme la femme de Souza, comme Jeanne. C'était des personnes qui étaient bénies, même Joseph d'Arimathée. C'était pas un petit. Pourquoi le Seigneur s'est fait entourer des gens comme ça? Des personnes qui avaient réussi, qui avaient prospéré à tous égards. Mais parce que justement, pour soutenir son ministre, il avait besoin des personnes qui pouvaient le soutenir. Il faut dire amen avec moi. Donc ne pensez pas que être dans la foi, c'est être dans la chose, c'est ce qui est moyen. Oh, l'apôtre Paul a dit que si j'ai à manger, ça me suffit. Encore, on prend un test hors de son contexte. Parce que l'apôtre Paul a dit que je me contente de ce que j'ai. Et que si j'ai à manger et que j'ai à me déplacer, cela me suffit. Donc, quand on prend le passage hors de son contexte, on va chercher à avoir son petit salaire, sa petite chose. On n'ira pas à chercher le succès parce que la Bible déclare que si on mange et qu'on a un peu, ça suffit. Mais ne le sortez pas de son contexte encore une fois de plus. Parce que l'apôtre lui-même était un brillant universitaire. Donc on veut que chaque phrase qui dit la parole de Dieu doit être prise dans son contexte parce que plus tel, il dit même dans Thessalonicien que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Ok, maintenant que j'ai fait le résumé pour ceux qui n'étaient pas là pour. Je vais discerner l'idée, le principe nous a guidé. On va montrer assez rapidement que nous avons sept étapes vers le succès. Ça, c'est vraiment selon moi mon découpage. La première étape pour le succès, c'est d'avoir une vision tout à fait très claire. On ne peut pas réussir si on n'a pas une vision tout à fait très claire. C'est extrêmement important. La vision que vous avez de vous-même et de votre vie. Et j'ai montré que la vision se forme au bas âge. Une vision se forme au bas âge. Normalement, la vie de l'homme est divisée en trois parties. En trois grandes parties. De 0,1 à 30 ans. À partir de Dieu, à partir de 30 ans jusqu'à 60 ans. À partir de 60 ans jusqu'à ce que, le Seigneur nous prenne avec lui. Donc, vous voyez que dans les 30 premières années, on bâtit les fondements de la vision. La vision est déjà là. Hein. À 30 ans, on a déjà la vision accomplie. On sait exactement où on va et ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi vous pouvez avoir des gens qui font des études et qui deviennent des chanteurs. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils font des études pour les parents, et puis après, il devient chanteur. Son rêve était de devenir chanteur. Ou bien, il va à l'école, et puis après, il devient footballeur. Vous voyez que la vision est importante. Donc, à ce âge-là, c'est formé. Et déjà, dans les 30 premières années, on va à l'école, on cherche du boulot, et puis on se marie. On fonde un foyer parce qu'on veut se reproquer. Vous voyez que déjà, à ce niveau, la vision est formée parce que quand on étudie, on sait où on veut aller. On dit, moi, j'étudie pour devenir médecin, devenir avocat, devenir journaliste, devenir ingénieur, ou faire la politique, ou devenir militaire. Très tôt, même les enfants qui rêvent être militaires vont à l'école, enfin, à l'école préparatoire militaire, aller un petit à Benjoville. Déjà, à 11 ans, ils y vont. Leur rêve, c'est de devenir militaire, et puis après, devenir militaire. Donc, déjà, que la vision, c'est pas quelque chose qu'on crée. Elle ne s'improvise pas, se trouve en nous. Quelle est la vision qui se trouve en vous? Et ça, c'est un élément sur lequel on m'a insisté. Et j'ai montré que quand Dieu a pris Abraham, et au chapitre 12, il appelle Abraham, au chapitre 13, Dieu fait sortir Abraham dans la nature, dans le pays, il lui dit ceci, tout ce que tes yeux voient, je vais te le donner. Ouais, Dieu devait influencer Abraham. Abraham devait avoir une vision très claire de ce qu'il allait devenir. Parce qu'Abraham a été, Dieu lui a dit que tu serais une source de bénédiction. Il fallait qu'Abraham ait une vision claire de ce qu'il allait devenir. Il dit, regarde les étoiles. Et si seront tes enfants, ils seront aussi nombreux que les étoiles. Aussi nombreux que la poussière ou que le sable qui bord de la mer. Donc, Abraham devait être influencé dans sa vision pour comprendre clairement que ce que Dieu avait dit qu'il serait, il allait le devenir. Il devait croire en cela. Deuxième chose qu'on a vu également, on a pu mettre l'exemple de Joseph aussi, qui à 17 ans avait déjà une vision claire, un songe qu'il avait fait. Et il a vu que dans le songe qu'il avait fait, il allait être élevé. Il allait émerger. Et plus tard, cette vision, 13 ans après, c'est parfaitement accompli. Donc, il est impossible d'arriver au succès si on n'a pas une vision modélée, quelque chose de clair, de précis, de où nous partons. Donc, la vision, on répond à la question, où est-ce que je vais? Je vais où? Quel est le but que je me suis fixé? C'est extrêmement important. Deuxième point qu'on a vu, c'est que quand on a la vision, il faut avoir la conviction. Vous pouvez avoir une vision, mais il faut qu'en vous, vous ayez une conviction. La conviction, c'est, je viens de dire, c'est cette voix intérieure qui vous dit que le choix est bon. Qui vous dit que ce que vous le faites, vous allez y parvenir. Que c'est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose que vous avez vu chez quelqu'un. Mais ça se passe en vous. Au fond de vous, vous savez que vous pouvez réussir dans telle carrière. Vous pouvez réussir dans telle structure. Que votre affaire peut réussir. Vous n'avez pas encore tous les moyens. Mais vous savez que, par exemple, travailler de manière séculière, avoir un salaire par mois, n'est pas votre dada. Vous ne le sentez pas. À un moment donné, vous démissionnez. Vous dites non, moi je veux vraiment travailler mon propre compte. Mais bien sûr, attention, il faut avoir eu la vision et avoir eu la conviction. Parce que si vous le faites comme ça, sur un coup de tête, ça peut avoir des problèmes. C'est pourquoi la Bible déclare d'ailleurs que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Le péché, comme j'ai dit la semaine dernière, enfin cette semaine, le péché c'est manquer son but. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vol, ce n'est pas si. Le péché ici, c'est le fait de manquer son but. Donc quand quelqu'un manque son but, il est à côté. Donc la conviction doit être en vous. Si vous n'êtes pas convaincu de faire quelque chose, ne le faites pas. Parce qu'il se peut que vous n'y arrivez pas, parce que justement, la conviction n'étant pas là, vous pourrez passer à côté de la plaque. On a beaucoup insisté sur cela. Et c'est-à-dire que la conviction, c'est le fait de faire corps avec quelque chose. Faites corps avec quelque chose ou avec quelqu'un. Troisième élément, qui est aussi lié à l'aspect intérieur, nous avons dit également, c'est quand on a la conviction, et c'est lié, on prend aussitôt la résolution. Vous êtes convaincu de quelque chose? Qu'est-ce que la résolution? La résolution, c'est une décision ferme. Je prends une décision ferme pour dire, moi, je vais commencer telle affaire. Moi, je vais faire tel diplôme. Moi, je vais faire telle formation. Moi, je vais vivre dans tel pays. Moi, je vais arriver à tel niveau. Vous prenez la résolution. La conviction est là, vous décidez. Vous voyez, quand vous êtes convaincu que vous devez aimer une femme, vous prenez une décision. Allez vers elle pour lui parler. Vous n'avez pas dit, ah, je suis convaincu, je l'aime, mais vous voulez prendre une décision. Ça ne marche pas. Vous voyez que la conviction vous amène à prendre une décision. Et c'est ce que Dieu était en train d'amener à Josué. Et le passage de Josué m'a beaucoup inspiré. Josué devait se décider. Dis, lève-toi, traverse le pays que je te donne. Fortifie-toi, encourage-toi. Ouais, il devait prendre une décision. Ensuite, nous avons montré que quand on a pris la décision, la résolution de partir, on doit être animé d'une grande passion. Ouais, et la conviction, la résolution, la passion, c'est complémentaire, mais c'est une différence, mais c'est lié en fait. Quand vous avez pris la décision, donc la décision ferme, donc il y a la résolution, vous devrez être animé d'une grande passion. Quelqu'un peut être convaincu, il peut prendre la résolution, donc la décision, mais il est là, nonchalant, ouais, il traîne, il parle au ralenti, il fait les choses au ralenti. Ouais. Cette personne ne peut pas entrer dans le succès. Là, il est dit, et les philosophes l'ont dit, que rien de grand ne s'est fait sans passion. Rien de grand ne s'est réalisé dans le monde sans passion. Ce sont les passionnés qui réussissent. Prenez tout. On peut prendre l'exemple au niveau humain. Cette année, enfin l'année dernière, Lewis Hamilton, à 23 ans, est devenu champion du monde de Formule 1. C'est le premier noir, enfin le premier métis à être champion du monde. Il a commencé à rêver à ça quand il avait 8 ans. À 8 ans. Et il partait s'entraîner dans les kartings, dans les camps comme ça. Il avait une grande passion. Et son père l'a laissé faire cela. Une grande passion. Il est venu à 23 ans et champion du monde. Ouais, il était nourri de cela. Ouais. La passion l'a dévoré. C'est vrai à tous les domaines. Même si aussi pour Tiger Woods, au niveau du golf. Si vous prenez les grandes stars, ceux qu'on voit, qui sont visibles. Même aussi dans le domaine des études également. Si vous n'êtes pas passionné pour ce que vous faites, vous ne pouvez pas arriver à un haut niveau. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire, moi je me condamne à avoir mes 10 suiveux. Soyez sûr qu'avec une telle idée, cette personne n'ira pas très loin. Il s'est dit de toute façon, Joe, moi si la maçon passable, au lycée, on disait même souvent que si la maçon pitié, pourvu qu'il soit admis. Mais quand quelqu'un tient tel langage, il s'est dit, même si la maçon pitié, ça va chez moi, soyez sûr que cette personne ne pourra pas avoir du grand succès. C'est-à-dire qu'elle sera dans le lot. Elle sera dans le lot, dans la foule, mais elle ne pourra pas émerger. Ce matin, ma prière, c'est que vous émergez parce que Dieu a mis en vous du potentiel. Ne cherchez pas à faire juste le moyen. Dis un tout petit peu, mon frère. Je suis entré là-bas, comme quelqu'un dit. Moi, je cherche à être sauvé. s'il va au paradis, même s'il rentre comme ça, comme sauvé par le feu, pourvu que j'y sois. Oui, il comme par le feu. Comme c'est écrit dans Corinthiens, il était sauvé comme par le feu. Il dit, ça y est, tout juste, je suis entré. Puis après, ça s'est enfermé. L'essentiel, c'est que je sois avec Dieu. Même si je suis tout tabouré au fond là-bas, c'est pas grave. Ouais, on n'a pas d'ambition. Ouais, il est important qu'on soit enflammé par la passion. Et la Bible emploie le terme de passion, emploie le terme zèle. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Tous les hommes de Dieu sont des passionnés pour les âmes, passionnés pour le ministère, qui sont intéressés à faire voler les choses, qui ne cherchent pas à servir l'intérêt. Ils voient d'abord l'intérêt du peuple de Dieu. Parce que quand le peuple de Dieu est béni, eux aussi seront bénis. Donc vous voyez que la passion fait que vous êtes enflammés. Des fois, quand vous animez par une grande idée, vous pourrez perdre le sommeil. Parce que ça vous travaille. Vous voulez écrire, vous voulez que ça soit plus 24 heures, mais c'est que ce soit 30 heures dans la journée. Parce que quand les 18 heures, il est déjà l'heure. Oh, j'ai voulu continuer à travailler. Vous êtes sur le bon chemin. La passion vous dévore. Parce que vous sentez que vous pouvez y arriver. La passion est importante. C'est la passion qui a fait que ceux qui ont créé cette machine se sont d'abord livrés. Que ce soit l'avion, que ce soit la voiture. Ils ont essayé, mais ils ne tombaient pas, ils bougeaient. Et ça, on va citer sur cela. Après la passion, donc quand il y a la conviction, qu'il y a la résolution et que la passion s'est liée, vous passez maintenant au stade de ce qui est intérieur. Ce qui est invisible se trouve en vous, à ce qui est visible, qui est extérieur. C'est-à-dire vous passez à l'action. Combien de personnes avaient eu des grands songes, des grands rêves, des grandes visions, qui les ont même écrits et qui ne sont jamais passés à l'action et qui malheureusement ont rejoint l'éternité sans avoir posé une seule fois l'action qu'il faut, là qu'il faut. Quand vous avez quelque chose en vous, vous avez la conviction, vous avez la résolution, vous avez la passion, il faut passer à l'action. Commencez à poser les actes. Et j'ai dit que pour poser les actes, n'attendez pas d'avoir tous les moyens. C'est une erreur d'espérer avoir tous les moyens avant de commencer quelque chose. Renseignez-vous sur tous ceux qui ont réussi dans quelque domaine que ce soit, dans le sport, dans la musique, dans l'art, dans le niveau militaire, au niveau intellectuel, au niveau des affaires, au niveau de la science, c'était tous les domaines. Ces personnes n'ont jamais eu tout ce qu'il fallait au début. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont le budget qui pèse des milliards. Mais ils ont commencé peut-être avec 2 ou 3, 4 euros ou dollars, avec très peu. Vous commencez dans l'action avec ce que vous avez. Le Seigneur nous a donné dans la Bible, il y a tellement de choses. Souvent on les lit et puis on ne peut pas savoir souvent la sécurité spirituelle. Quand le Seigneur était avec ces personnes qui étaient fatiguées, qui avaient faim, parce qu'ils avaient écouté la parole pendant 3 jours, le Seigneur dit à ses disciples, qu'est-ce qu'on a pour toute cette foule qui est ici? On parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc peut-être 10, 12, 15 000 personnes, peut-être 20. Et les disciples disent que même ce qu'on avait, même si on avait eu assez d'argent, on ne pouvait pas le nourrir. Et là, ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez? Et André a dit, il y a un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. Oui, le Seigneur a commencé son miracle avec 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas dit, oh Dieu, je suis ton serviteur. Je suis Dieu. La parole a été faite chair. Je prie maintenant, oh, à mon nom, Père, que les cieux s'ouvrent et qu'ils pleuvent sur ce lieu des poissons, des jambons, des hamburgers, des attaquets avec sauce graine, avec tout ce que vous voulez comme du riz. Que ça pleuve. Non, il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait ça. Et malheureusement, ce sont ces gens les prières que nous faisons. Oh, Dieu, ouvre des portes. Je veux avoir 500 000 pour commencer mon affaire. Alors que tu as sur toi 10 000 francs, 15 000 francs. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas faire quelque chose avec tes 10 000 francs? Il peut le faire. Passe à l'action. Mais accepte de pouvoir passer par les étapes. Quand le Seigneur a prié, il a rendu grâce. Et voici comment le miracle s'est opéré. Lorsqu'il prenait le pain à l'époque était rond. Le pain, souvent, quand nous voyons, on peut le shawarma. Il prend le pain, il le déchire, il le coupe. Et quand le couple, le pain se reforme aussitôt. C'est comme ça que ça s'est passé. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Puisqu'il n'avait pas assez d'assiette. C'est la seule explication possible qu'on peut donner. Donc en fait, Dieu multiplie ce qu'on a. Et j'ai donné l'exemple aussi dans 2 Rois, chapitre 34. Où la veuve, qui n'avait qu'un flacon d'huile, qui devait voir ses enfants être réduits en esclavage, est allée voir Élisée. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme dit ceci, j'ai qu'un flacon d'huile. Elle dit, va prendre des ustensiles. et verse dans l'huile. Et quand la place ustensile a versé l'huile dans les ustensiles ont été remplis. Élisée lui dit, va, vends cette huile. Et avec l'argent que tu auras, maintenant, il faut rembourser ta dette. Élisée aurait pu prier pour dire, Dieu, je suis ton serviteur. Fais que le ciel se déchire et qu'il pleuve cette dame-là autant d'argent qu'elle voudra pour rembourser ses dettes. Dieu ne l'a pas fait. Vous voyez que Dieu multiplie ce qu'on a parce qu'il veut qu'on passe à l'action. C'est important de comprendre ceci. Pour ne pas qu'on fasse des prières inutiles et qu'on dise, Seigneur, voilà ce que j'ai. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a répondu, j'ai un bâton. Dieu dit, ça suffit. Ton bâton est le bâton du commandement. C'est le bâton du miracle. Commence avec ceci. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Passe à l'action avec ce que tu as. As-tu envie de commencer un commerce? As-tu envie de commencer un cabinet? As-tu envie d'ouvrir une telle possibilité? Ne cherche pas loin. Les moyens se trouvent avec toi, se trouvent en toi, autour de toi. Avec ce que tu vois, commence et tu verras qu'il y a quelqu'un qui va t'intéresser à ça. Et quand tu vas commencer, Dieu va t'ouvrir tes portes parce que Dieu se manifeste quand on a en action. Il se manifeste quand on passe à l'action. Il faut dire amen avec moi. Et dans l'action, c'est très intéressant. Dans l'action, j'ai montré qu'il fallait avoir la connaissance de deux idées principales. Ce qu'on appelle la priorité. Quand vous commencez l'action, il faut avoir ce qu'on appelle la priorité. C'est quoi? Ce que je veux faire et que je suis obligé de faire. Il faut établir la priorité quand vous commencez à l'action. Ce que je veux faire et que je suis obligé de faire. Ça devient pour moi une obligation. Je dois le faire parce que je veux le faire. Deuxième chose, ce que je peux faire et que je suis obligé de faire. Ça traîne en vous ce qu'on appelle la discipline. Ensuite, troisièmement, ça devient l'option maintenant. Ce que je veux faire et que je ne suis pas obligé de faire. Là, ça devient l'option. Je veux le faire, mais je suis obligé de le faire. Et puis, ce que je n'ai pas envie de faire et que je suis obligé de le faire. Là, ça n'est pas faire. Donc, vous voyez que vous pouvez arriver à établir la priorité sur ce plan-là. Maintenant, au niveau de la priorité, quand elle est établie, il faut voir maintenant ce qu'on appelle vous comporter comme étant le propriétaire de l'action. Parce que si vous travaillez pour quelqu'un, vous pouvez ne pas avoir la même passion. Mais quand vous vous comportez comme le propriétaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la bonne chose. Vous allez faire la bonne chose avec des bonnes raisons. Faites la bonne chose avec conviction. Faites-la pour la gloire de Dieu. Faites la bonne chose pour faire du bien aux autres. Mais quand ça vous appartient, vous faites toujours la bonne chose. N'est-ce pas? Quand quelque chose vous appartient, vous faites la bonne chose. Vous la faites bien. Vous la faites avec des bonnes raisons. Vous la faites pour la gloire de Dieu. Vous la faites pour être à l'aise vous-même. Et vous la faites pour faire du bien aux autres. Et c'est comme ça que se comporte un propriétaire. Et c'est pourquoi, en commençant votre activité, ou un domaine précis et particulier, comportez-vous comme étant le propriétaire et travaillez comme si la chose ne dépendait que de vous. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si personne d'autre n'existait et que c'est vous seul qui existiez, faites comme si la chose n'allait pas pouvoir réussir si vous n'étiez pas là. Est-ce que ce que je dis est clair? Donc, même dans une structure quelconque, même si vous travaillez pour quelqu'un, comportez-vous comme si vous étiez le propriétaire et faites-le parce que c'est ça qui vous fait monter en grade et en promotion. Parce qu'il va voir que vous agissez comme vous des propriétaires, il va dire, tiens, j'ai vu que tu ne te contentes pas juste de faire ta tâche, d'avoir ton salaire et puis de partir, mais tu le fais comme si ça t'appartenait. Tu vas voir la promotion. Vous voyez, on peut provoquer les choses facilement et Dieu peut se glorifier. Mais on n'a pas le temps de voir les détails. Prenez les séries, vous allez voir. Je suis venu ce qu'on appelle l'adaptation. Quand vous passez à l'action, il faut adapter votre action au réalité du terrain. Vous modifiez cela. Sixièmement, on a vu aussi la possession. Quand vous avez commencé l'action, il faut chercher à posséder votre territoire, à marquer le territoire. Dieu a dit au peuple d'Israël, voici le pays que vous prendrez en possession. Mais on ne peut pas le voir en entier. Septièmement, nous avons vu que quand vous prenez possession de quelque chose, il faut maintenant appliquer la loi de la domination, c'est-à-dire exercer un monopole. En fait, la référence absolue dans le domaine dans lequel vous êtes. Ça, c'est ce qu'on a vu le jeudi dernier. Et le vendredi, nous avons vu autre chose, nous avons vu des obstacles au succès. On a vu des obstacles au succès. Et je pense que je suis venu avec mes notes. Voilà. On a vu comment il faut combattre les obstacles au succès. Parce que là, ça insiste. Et pour ceux qui ont déjà suivi, ça fait pour vous une bonne révision. Pour qu'on puisse vraiment faire soi les choses. Donc, on a vu le vendredi qu'il existe quatre, selon moi, quatre obstacles majeurs. Je dis bien des obstacles d'autres techniques. D'autres humains, mais pas des obstacles d'autres spirituels, parce que d'autres spirituels, c'est par la prière, par le jeûne, et dans le combat spirituel qu'on arrive à briser les liens, les malédictions, et tous ces obstacles spirituels que l'ennemi crée pour ne pas qu'on prospère. Certaines personnes qui ont la famille ont des problèmes pour réussir. Et ça, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Il faut absolument prier par rapport à ça pour que ça ne puisse pas dominer sur votre vie. Bon, je suppose que ça, c'est réglé. Parce qu'on peut prier en esprit, briser cela, mais on peut ne pas, malgré tout, connaître le succès. Combien de fois avons-nous participé à des veilles de prière et avons-nous fait des cas de délivrance, et puis malgré tout, on n'a pas prospéré. Mais parce qu'on oublie que dans la vie, il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension spirituelle et la dimension humaine. Et si vous avez seulement la dimension spirituelle, et que vous ne prenez pas en compte la dimension humaine, sociale, la dimension financière, économique, vous n'allez pas avoir le succès. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la délivrance au niveau spirituel. Aucun démon n'habite en vous. Vous n'avez aussi votre vie aucune malédiction spirituelle, ancestrale. Mais malgré tout, vous ne prospérez pas. Mais parce que vous n'êtes pas entré dans la dimension qui revient à l'homme. Dans une dimension technique qu'il faut enseigner à l'église. C'est pourquoi je me suis dit, si à l'église, je me contente de traiter que d'aspects spirituels, en ne parlant que de délivrance, des démons et de leurs œuvres. Et si je ne dis pas aux chrétiens qu'il existe un aspect technique, un aspect humain à traiter, si ce n'est pas traité, on aura des gens délivrés, sauvés, mais qui n'avancent pas, qui ne progressent pas, parce qu'ils n'ont pas l'aspect technique. Les païens n'ont pas la délivrance. Mais est-ce qu'ils ne prospèrent pas? Dites-moi. Non, répondez à ma question. Non, soyez au sérieux, on se répond là. Les païens, est-ce qu'ils ont la délivrance? Est-ce qu'ils ne prospèrent pas? Voilà. Donc nous, on peut avoir ce qu'ils ont, et ils n'auront pas ce que nous avons. On a le salut de la paix en Christ. On a la joie en Christ. Ils n'ont pas vraiment. Ils ont leur joie à travers la drogue, à travers la cigarette, à travers les femmes ou les hommes, à travers toutes sortes de choses, à travers les artifices. Mais malgré tout, ils ont l'argent. Nous, on a la paix, on a la joie, du coup, on est pauvre. C'est pourquoi on dit souvent pauvre comme un rat d'église. Parce qu'on estime que les rats d'église ne veulent pas manger. Oh, je prie qu'ils ne soient pas ici. Alléluia. Vous voyez comment des gens même on se moquent de l'église. Comment les gens, parce qu'ils estiment qu'à l'église, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a même un rat, même, ne va même pas avoir à manger à l'église là-bas. Il n'y a même pas des petits os qu'on peut ramasser. Ah! Seigneur, aide-nous. Mais ça cause du comportement des chrétiens. Parce que chez nous, tout est spirituel. Oh, la carachandra, baba, tout est spirituel. En même temps, il faut payer le courant, il faut payer l'eau. Ah! Ou bien, souvent on dit, mais il faut payer la dîme. La dîme, on la paye avec quoi? Je ne sais pas avec ce que tu as vu. Ah, ok. J'espère que ce que je dis a un sens. Ok, on continue. Et j'ai montré l'un des obstacles majeurs et peut-être le plus grand obstacle au succès, c'est la peur de jouer. La peur de jouer. Vous voyez, ceux qui sont limités à ce qu'ils pouvaient faire n'ont jamais avancé. Ceux qui sont limités à ce qu'ils pouvaient faire n'ont jamais avancé. Ça, c'est Martin Luther King qui l'a dit. Ceux qui ont peur de prendre des initiatives restent dans la rangée, dans les rangées. Il y a un risque à prendre, donc il faut pouvoir... Là, il y a la peur qu'il faut surmonter. Goliath procédait par la peur quand il arrivait devant le peuple d'Israël. Il avait 2,96 m. Il s'est mis la panique, tout le monde fuyait. Voyez, si on a peur d'entreprendre, on ne va jamais avoir du succès. Voyez, il y a ici un aspect de risque. Mais attention, du risque calculé. Quand vous investissez, vous prenez un petit risque. Quand quelqu'un investit, il prend un risque. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il fait va réussir? Mais si on n'investit pas, on ne va pas prospérer. Donc, vous voyez qu'on doit être en mesure de dominer la peur. Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Quand il a commencé à réfléchir, il s'est dit, normalement, un être humain ne peut pas marcher sur l'eau. Et quand il a commencé à se rendre compte qu'il était un être humain qui était sur l'eau, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Malheureusement, on s'enfonce dans l'échec, on s'enfonce dans la situation habituelle parce qu'on a peur de prendre les initiatives. On a peur. Il est montré que la peur paralyse la mémoire. Voyez aux examens comment les étudiants sont, quand ils sont paniqués, ils n'arrivent plus à composer. Et pourtant, ils connaissent parfaitement la leçon. Parfaitement la leçon. Ils tombent sur un chapitre en classe, au cours ou à l'examen. Panique totale. Ils tremblent comme ça. Ils ont une excuse, hein, qui ont envie de faire pipi. Ils vont aux toilettes. Ils ont peur, ils tremblent. Et c'est un sujet qu'ils connaissent. On est équation. Je ne suis pas fait en mathématiques, mais ils connaissent. Ils disent, mais ça, je connaissais ça. Seigneur. Mais là, c'est fini. Qu'est-ce qui a tué? La peur. Vous avez déjà vu ça dans la vie? Si. Oui, la peur et le doute créent l'échec. Mais on ne pourra pas tout voir. Et on a vu un second aspect au niveau des obstacles au succès. C'est l'absence d'initiative ou la paresse. Certaines personnes, il ne faut même pas d'initiative. Eux, ils ont peur. Elles ont peur. Elles, à leur niveau, c'est la peur totale. Elles ne vous mettent pas. Ok. Certaines personnes n'ont pas peur en tant que telles. Mais elles aiment passer du bon temps. On passe du bon temps quand on a réussi. Mais on n'a pas encore le succès. Comment on peut prendre du bon temps? Aller à Sini Mafia, les pieds sur les cocotiers. Et puis on se repose. On dit, oh Dieu, la vie est belle. Attends, ça chauffe à la maison. On le fait moins deux ou trois fois dans la semaine. Non. Il faut prendre des initiatives. L'absence d'initiative, le Seigneur nous a inspiré sur la vie de la fourmi. Et j'ai vu qu'ici, que dans l'initiative, on n'a pas besoin d'avoir un maître, un dirigeant. On va arriver sur le maître plus tard. Mais vous voyez que quand vous prenez l'initiative pour quelque chose, n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, oh, il est 6 heures du matin, réveille-toi et va faire ton affaire. Non. N'attendez pas, parce que la fourmi n'a pas de maître. La fourmi n'a pas d'officier. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 8, chapitre 6, verset 6 à 11. La fourmi prépare sa nourriture en été. Elle qui n'a ni officier, ni maître. Et puis elle fait quoi? Elle fait des provisions. Elle fait des provisions. Dans les principes, le succès, l'aspect provision est important. Moi, je suis pas un homme d'affaires, mais je donne des enseignements sur la base de la parole de Dieu. Vous savez que quand vous avez commencé une affaire, faites un calcul. Vous dites, supposer que pendant 6 mois, je n'ai aucun client. Je n'ai aucun client. Supposer que pendant 6 mois, je n'ai aucun client. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse des provisions pour qu'ils soient en mesure de payer l'eau, le courant, les employés, le personnel. Pendant 6 mois. Si ça ne marche pas, pendant 1 an. Donc, j'ai mes provisions qui me permettent de faire face à des situations de crise. Et c'est ce qui permettra d'avancer. Donc, vous voyez que la provision est nécessaire. C'est aussi vrai dans la vie qu'on construit une maison, qu'on fait quelque chose. Donc, n'oubliez pas cet aspect, parce que j'en parle simplement parce qu'on a des chrétiens qui sont trop spirituels. Comme avec celui avec qui j'ai discuté une année quand j'étais encore à l'université. Il me disait qu'avoir de l'assurance, faire de l'assurance, c'est un péché. Parce que c'est un manque de foi. Parce que Dieu dit, il va nous prendre en charge. Donc, si tu fais l'assurance pour que Dieu s'occupe de toi, si tu as un manque de foi, parce que tes enfants, même si tu meurs, tu vas s'occuper d'eux. Vous voyez, quand quelqu'un entend l'évangile pareil, cette personne-là, elle va aller où? Elle va aller où? Elle ne peut pas aller de l'avant. Donc, vous voyez, ce qu'on entend est extrêmement important. La fourmi dont les hommes sur être capable de faire des provisions. Ensuite, nous avons vu le troisième obstacle, c'était de prendre les choses à la légère. Le fait de prendre les choses à la légère constitue un obstacle au succès. C'est-à-dire que des gens disent, oh, tu savais, ça ne fait rien. Dieu avec moi. Non, ça va aller. Non, il n'y a rien. Comme on dit encore, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Dieu en contrôle. On dit, il y a telle chose. Oh, non, il n'y a rien. On va être, même au niveau politique, c'est dangereux. C'est pourquoi souvent, les gens politiques, ils ont les services de renseignement officiels, mais ils en ont aussi d'officieux. Ils ont souvent, dans toutes les hiérarchies, ils ont des gens qui sont des gens ordinaires, qui payent et qui sont au marché, qui entendent les choses. Pour ramener, pour lui apporter ça. Même au niveau de l'armée, quand un militaire va aller faire des enquêtes, il n'est pas bien en galop pour dire ouais, mes généraux, jamais. Tout le monde le fuit. Il s'habille simplement. C'est pourquoi dans l'armée, j'ai souvent des femmes qu'on utilise. La police aussi, criminelle. On utilise des jeunes filles, bien habillées, bien sapées, frappées en moulant ou bien en collant. Elles sont dans le bar. Et toi, on pense qu'elle est venue pour s'amuser. Elle recherche un gangster, elle recherche un vendeur de drogue. C'est pas ça? Ouais, on a besoin d'avoir cela pour pouvoir avancer. Prendre des initiatives. Le fait de ne pas prendre les initiatives, le fait de ne prendre les choses à la légère fait qu'après, soit le régime est renversé, ou parce qu'on tombe simplement parce qu'on a négligé, on a pris la légère, on a dit rien ne va arriver, tout cela. On a pris l'exemple de Saül, qui a pris les choses à la légère. Il a fait le sacrifice à la place du sacrificateur Samuel. Dieu a dit que tu es disqualifié. Il n'a pas pris ça en considération. Et j'ai montré des exemples importants au niveau des empires qui sont arrivés. Et ça, c'est de l'histoire. L'empire romain a été l'un des empires les plus puissants que le monde ait connu. Mais j'étais étonné de savoir que l'empire romain a été vaincu par les barbares. Les barbares étaient sales. Ils ne se rasaient pas. Ils n'étaient pas instruits. Ils n'avaient aucune éducation. Ils étaient vraiment ce qu'on appelle en français les gueux. C'était vraiment les gens du peuple, les gueux. Ça, c'était les barbares, ça. Mais ils aimaient une chose, ils aimaient la guerre, ils aimaient la bagarre. Donc, quand les Romains ont pris que les barbares ne peuvent pas contrôler, ils ont dit, oh, cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'ont aucune indication, ils ne se rasent pas, ils sont sales, ils ne peuvent rien faire. Avant que ça rende compte, les barbares ont réussi à entrer à Rome et à créer un désastre dans l'Empire romain. L'Empire romain s'est divisé à cause des barbares. Vous voyez que quand nous montons, c'est pas la Bible déclare, mais là, un principe biblique, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Quand Dieu vous amènera au sommet, ne pensez pas que c'est tout. Restez là et cherchez aussi à ne pas prendre les choses à la légère. L'Empire égyptien qui a connu un système politique dominant sur une période de 1300 ans, de 13 siècles, a été vaincu par qui? Par les Kixos. Les Kixos, aussi comme les Barbares, étaient des gens peu instruits. Pas de, beaucoup d'éducation. Des gens d'à côté. C'est eux qui ont attaqué les Égyptiens. Ils ont réussi à les vaincre parce qu'ils aimaient les armes. Vous voyez que lorsqu'on prend les choses à la légère, on ne peut pas avancer. Même, prenez l'exemple des Perses. Ce sont les Perses qui ont vaincu l'empire babylonien. Or, Babylone était un empire puissant. Ils ont été vaincus par les Babyloniens. Enfin, plutôt, les Babyloniens ont vaincu les Perses. Non. Les Perses ont vaincu les Babyloniens. Complètement vaincus. Et quand les Perses ont vaincu les Babyloniens, vous savez ce que les Perses se sont dit? Ils se sont dit, mais si on a vaincu les Babyloniens, qui peut nous battre? Qui peut nous battre? Nous, les Perses, on a vaincu qui? Les Babyloniens. Qui va nous vaincre? Personne. Ils étaient là quand les Grecs se préparaient contre eux. Les Grecs étaient des Russes, ils ont préparé. Ils ont attaqué les Perses, ils ont vaincu les Perses. Ouais, l'histoire nous enseigne qu'il est possible d'être au sommet et puis de chuter au moment où on s'y attend le moins. C'est pourquoi, chers frères et chers sœurs, dans quelque activité où vous serez, ne prenez jamais les choses à la légère. Ne négligez aucune information. Ne dites pas ça fait rien, ça va aller. Non, évitez et enlevez le mot ça va aller. Ce n'est pas un mot de foi. Prenez les choses au sérieux. On vous informe de quelque chose, prenez ça au sérieux. Et puis, examinez l'information. Si elle se trouve être fausse, ok, vous n'avez rien perdu, au contraire, vous gagnez. Mais si, par exemple, elle était vraie, et que vous l'avez pris à la légère, vous aurez tout perdu. On n'a pas le temps de voir cela, voyez les CD. Ensuite, et enfin, le quatrième obstacle au succès, c'est le déni ou la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est la tendance à tout reporter, à tout ajourner. C'est la tendance à tout remettre au lendemain, à tout ajourner. La procrastination, pro, P-R, et puis cran, C-R-A, cras avec S, T-I-N-A-T-I-O-N. La procrastination. La tendance à tout remettre à demain. On est très fort dans ça. Et j'ai montré simplement que si Dieu nous montrait à travers un organe qui a de l'intelligence, combien de temps on perd en calculant en heure, en jour, en mois, en année, il se peut que parmi nous, quelqu'un ait perdu 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Depuis le début jusqu'à maintenant, le temps de causer un peu, jouer au ludo, comme à Yopougon-Sikoji, jouer à la Wallée jusqu'à 3h du matin, causer du passé, des frères, de telles personnes, la télévision, avec le film bizarre, on est assis. Vous voyez, pendant ce temps, on a fait autre chose, hein, mais on est là, on est distrait. Alors, si on calcule tout cela, et qu'on les convertit en jour, en mois, en année, il y en a qui ont perdu 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, si tu as par exemple 45 ans, ou 46 ans, 47 ans, en réalité, tu te retrouves au niveau de 42 ans. Parce que tu as perdu 5 ans, tu n'avais pas fait grand-chose. Tu aurais pu être au niveau où tu veux être, avec les moyens qu'il aurait fallu avoir. J'espère que tu me fais comprendre. Avec les moyens que tu aurais pu avoir, mais parce que tu as perdu du temps. Ce n'est pas seulement au niveau professionnel, hein, même au niveau des activités que nous engageons. Puisqu'on néglige un tout petit peu. Vous voyez, c'est avec le temps qu'on a l'argent. On dit le temps est de l'argent. Donc, si on investit et qu'on gère mieux notre temps, on peut initier plusieurs activités. Est-ce que je me trompe? On peut initier une, deux ou trois. Mais des fois, on se contente d'une seule. Et à l'intérieur de la seule, on aurait pu avoir d'autres branches, développer d'autres secteurs. Mais quand on se contente de ce qu'on a et puis on perd le temps, on n'arrive plus à diversifier notre activité et on se contente de un, alors qu'on aurait pu avoir deux ou trois. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que la tendance à reporter peut nous coûter très cher. Et j'ai montré que même au niveau médical, il est démontré que on meurt très souvent parce que la situation est devenue incurable. Elle s'est empirée. Généralement, on meurt parce que c'est empiré. On meurt parce qu'on est arrivé trop tard. Regardez, je ne souhaite pas, ça n'arrivera pas. Si quelqu'un fait un accident sur l'autoroute quelque part, n'est-ce pas? Normalement, on doit le prendre à l'hôpital pour l'envoyer aux urgences. Qu'est-ce qui va le tuer? Ce n'est pas que la personne perd du sang. C'est quand les sapeurs-pompiers vont arriver après 2 heures. Vous comprenez? Qu'est-ce qui l'a tué? Qu'est-ce qui l'a tué? C'est le retard qui l'a tué. C'est le retard qui l'a tué. C'est tout. Parce que si elle a fait un accident et que dans les 10 minutes qui suivent, un hélicoptère vient le prendre ou la prendre, le transporte directement aux urgences dans un hôpital où tout le monde est là, même s'il va à l'hôpital, et que le médecin maintenant lui est venu en retard. Vous voyez? Qu'est-ce va le tuer? L'oreille du médecin va le tuer. On meurt, on a des problèmes, on est pauvre parce qu'on a ce qu'on appelle la procrastination. Le trop tue les gens. C'est malheureux de mourir de la fièvre typhoïde. Et pourtant, c'est une maladie qu'on soigne rapidement. Mais combien de personnes sont mortes de fièvre typhoïde? Parce qu'elles n'ont jamais fait d'examen. Elles ont confondu la typhoïde avec le palu. Elles traitent le palu alors que c'est la typhoïde. Quand elles vont à l'hôpital, on dit, mesdames, c'est trop tard, c'est fini. Les intestins sont percés. On ne peut plus rien faire. Il faut une opération pour trouver 2 millions. Il n'y a pas 2 millions, la personne va mourir. Est-ce que c'est parce qu'il fallait 2 millions pour la typhoïde? Non. Là, il a fallu 5 000 francs. Si le mal avait été découvert très tôt, elle aurait été guérie. Ce qui l'a tué, ce n'est pas la typhoïde, c'est le trop tard, c'est le déni, c'est la procrastination, c'est le rejet, c'est la négligence qui l'a tué. Et c'est vrai dans tous les domaines. Mais on n'a pas le temps et on pourra examiner les autres choses. Alors hier, rapidement, qu'est-ce qu'on a vu? Hier, nous avons vu, n'est-ce pas, l'intelligence et la sagesse pratique. Comment avec l'intelligence et la pratique, il est possible d'arriver au succès? Et j'ai montré que la sagesse et l'intelligence dans la Bible sont ensemble pour arriver au succès. Hier, j'ai dit ceci, que la sagesse bâtit une maison. L'intelligence la maintient en vie. C'est dans la Bible, hein? Par la sagesse, on bâtit quelque chose. Parce qu'un homme qui est sage, il bâtit, il prépare quelque chose, il prévoit quelque chose. Une femme qui est sage, elle bâtit quelque chose. Dans la Bible déclare, dans le Proverbe chapitre 31, la femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. Donc, par la sagesse, on bâtit des fortunes. On bâtit des richesses. On bâtit du succès et la réussite. Maintenant, pour la maintenir, il faut de l'intelligence. Parce que l'intelligence permet de discerner. L'intelligence, c'est le discernement. Le fait d'être créatif, d'être proactif, de sentir les choses, on les sent. On dit, ah, s'il m'engage dans telle affaire, ça va marcher. Ça, c'est l'intelligence qui fait ça. C'est pourquoi les hommes intelligents, les femmes intelligentes, on cherche à les débaucher, n'est-ce pas? On veut les avoir parce qu'elles permettent à une société de grandir, de prospérer, d'aller de l'avant. Donc l'intelligence sont, qu'on appelle, et la sagesse sont en commun, travaillent en commun. C'est avec la sagesse qu'on acquiert l'argent. La Bible déclare que avoir la sagesse, c'est être à l'ombre de l'argent. Ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Avoir la sagesse, c'est être à l'ombre de l'argent. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. Ecclésiaste 7, 12. Et puisque la sagesse nous permet de bâtir une fortune et que l'intelligence nous permet de pouvoir donc la maintenir et de progresser, j'ai compris qu'il faut donc avoir une intelligence et une sagesse pratique. Alors, c'est quoi l'intelligence et la sagesse pratique? Quand on est intelligent et qu'on a une sagesse pratique, on se dit que pour réussir, il faut avoir un modèle. Donc, avoir un modèle paraît important, c'est déterminant d'avoir un modèle. La personne qui va vous inspirer, dans tous les domaines, vous avez toujours un modèle. Quelqu'un dont on s'inspire pour réussir à faire quelque chose. Pourquoi? Mais parce que les hommes ou les femmes doivent apprendre de ce qu'on appelle l'excellence humaine. On doit savoir qu'est-ce qui a fait la force de telle personne, pourquoi elle a réussi, pourquoi elle n'a pas échoué, pourquoi elle est montée au niveau le plus élevé. Étudiez son histoire. Vous ne pourrez peut-être pas arriver au même niveau, mais vous ne serez pas dans la même situation. Je reprends ce que je dis. Quand vous inspirez d'un modèle et que vous essayez de faire comme elle, il se peut que vous n'arrivez pas au même niveau qu'elle arrivait. Mais c'est ce qui est certain, vous ne serez pas au même stade que vous étiez quand vous n'avez pas de modèle. Vous serez peut-être au stade moyen ou même être assez proche de lui. Et même le dépasser. Il y a certaines personnes qui dépassent leur modèle. Simplement, vous voyez que quand vous avez un modèle, vous inspirez. Et dans la Bible, c'est pourquoi dans la Bible, Dieu a toujours voulu qu'il y ait des modèles. Moïse était le modèle de qui? De Josué. Élie, le modèle. Qu'on appelle de Lysée, Paul avec Timothée, les autres. La Bible, c'est comme ça. Et puis Jésus lui-même est venu comme quoi? Comme le modèle parfait. Jésus est venu comme le modèle parfait. Vous comprenez que Dieu veut que nous ayons en nous ou autour de vous un modèle. Maintenant, après le modèle, j'ai eu à dire également qu'il faut avoir un mentor. Le mentor, c'est le maître. Le modèle peut être un peu loin. Il peut ne pas être proche de vous parce que c'est trop loin. Vous aimez un artiste, vous aimez telle personne. Bon, vous l'avez aux États-Unis, en France ou en Côte d'Ivoire, quelque part, mais vous n'avez aucun rapport. Mais vous connaissez sa vie, ça vous inspire. Maintenant, mais bien sûr, un modèle peut être aussi un mentor. Le mentor, c'est celui qui vous inspire directement, qui vous influence, qui assure votre couverture, en fait, en quelque sorte. Votre maître au niveau spirituel, qui assure votre couverture, qui peut vous parler. qui peut vous dire, on ne fait pas ceci, on fait cela. En qui vous pouvez vous confier? Ouais, si vous n'avez aucun confident, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous influencer positivement, il se peut que vous engagez sur des fausses voies, vous fassiez des mauvaises choses, il n'y a personne qui puisse te dire, mon frère, on ne fait pas ceci. C'est dangereux de ne pas avoir quelqu'un que tu respectes et qui puisse t'orienter, te guider. C'est pourquoi ceux qui ont réussi ont toujours un mentor. Il peut être à la fois un modèle, mais aussi un mentor qui vous influence littéralement et qui peut aussi vous introduire dans certains milieux. Vous êtes dans certains milieux. Et troisièmement, j'ai dit qu'au niveau de l'intelligence pratique, il faut avoir un message clair. Un message clair. Le message est important. Vous voyez, quand on fait chaque bac de fabrique de quelque chose, il y a toujours un message. Prenez n'importe quel produit, il y a un message. Western Union a un message. Visa a un message. Vous voyez, prenez tel produit, Microsoft a un message. Prenez le téléphone portable. Vous voyez, quand on prend les réseaux, chaque réseau a son portable. N'est-ce pas? Chaque réseau a son message. Donc, chacun a un message. Alors, pour réussir dans la vie, à tous égards, il faut chercher à avoir un message. Quel est votre message par lequel on peut vous identifier? Claire. Si vous avez un message, c'est ce qui va vous motiver. Mon message est que je dois marquer ma génération, par exemple. C'est votre message. Donc, comme ça se trouve en vous, ce message, vous l'aurez et vous allez voir que ça peut vous influencer. Quand vous avez un message, que vous avez un commerce, par exemple, à cause du commerce que vous faites, vous allez trouver un bon slogan. Vous allez dire, par exemple, ici, c'est régal. C'est doux, nègue, nègue. Ça, c'est votre message. C'est nègue, nègue, votre message. Par exemple. Bon, moi, je ne vous encourage pas à avoir des messages qui sont trop flous, dans les langues trop compliquées, à gros bout du coup, message. Bon, franchement, prenez les messages qui sont soft, qui sont simples, qui sont digestes. Même en politique, il y a des messages. On a vu avec Obama, yes, weekend, c'est beau, c'est chic. Simplement. Ou bien la France tranquille, par exemple, de Mitterrand. Ou bien la France pour tous. Ou bien le rassemblement. Ouais, y a un message. Ou le don de soi. Le temps du fouet. Ouais, chacun a un message. Ouais, il faut le message véhicule votre image. Le message dit qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de parler. Quel est ton message? Voici mon message. Quand il voit le slogan, il dit ça m'intéresse. Parce que tu es convaincu par son slogan. Et c'est pourquoi, même la parole de Dieu, les disciples avaient un message. Les apôtres avaient un message. Quel était leur message? Leur message était ceci. Jésus est le Messie promis. C'est le Fils de Dieu promis. Point. C'est leur message. Et les gens se convertissaient pour ça. Jésus avait un message. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est son message. Donc, cherchez à avoir un message afin de pouvoir entrer dans le succès. Et quatrième chose qu'on a vu, c'est la mise en pratique de l'intelligence pour maintenir le succès. La mise en pratique. Et là aussi, j'ai donné quelques enseignements. Je dis simplement que dans la mise en pratique de l'intelligence, il faut avoir la capacité de faire un diagnostic. C'est important de pouvoir diagnostiquer quelque chose. La capacité de faire un diagnostic. C'est quoi le diagnostic? C'est l'aptitude à faire une ample recherche et à examiner l'information. Examiner l'information, diagnostic de la situation, à reconnaître les modèles, à analyser les données. Qu'est-ce que j'ai comme données? Il faut les analyser. Je les analyse et puis je cherche à extraire essence. Mais je vous l'ai dit comme ça rapidement. Et puis aussi à formuler des actions crédibles. Quelle action je dois mener qui doit être crédible? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la capacité du diagnostic. Ensuite, la capacité à résoudre des problèmes. Parce que, sachez une chose, même dans la route ou sur la route du succès, il se pourrait qu'il y ait des problèmes. Quand le Seigneur a dit à Israël de quitter l'Égypte, j'ai des problèmes. Il n'avait pas dit que vous allez traverser la mer rouge. Il n'avait pas dit ça. Il n'était pas au courant. Mais c'est quand ils ont demandé la mer rouge, ils ont su qu'il y avait forcément une mer à traverser. Donc, si Dieu vous dit que vous allez avoir du succès, ne pensez pas qu'il n'y aura pas de mer rouge à traverser. Il y aura forcément des mers à traverser. Il y aura forcément des obstacles à traverser. Il y aura forcément des situations à traverser. Comment vous allez les résoudre? Vous voyez, cette fois-ci, c'est pratique. Comment les résoudre? Voici la méthode que je te propose. Il faut savoir repérer le problème apparent. Je répète. Il faut repérer le problème apparent. Qu'est-ce qui apparaît comme problème? Par exemple, je donne hier, tout le monde vient en retard au service. Ou là, ils travaillent de manière négligente, ils sont là, ils mangent chewing-gum, ils mangent à check-in au bureau. Et moi, j'ai déjà vu ça, hein, au bureau, en plein plateau. La bonne dame, elle ouvre son gros plat d'achiké avec son poisson, sa poisson, avec une pierre, mange au bureau. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez, en réalité, si on veut analyser, elle s'en fiche complètement du service. Si demander son salaire, elle a un salaire juste pour payer son déplacement, payer sa maison et puis manger. Parce que quelqu'un qui vit de ça, qui prospère à des millions, il ne veut pas s'asseoir manger à checker avec poisson sur sa table. Jamais! Parce qu'il va y agresser des odeurs. Vous comprenez que c'est le problème apparent. Pourquoi mange-t-on à checker dans les bureaux? Ça, c'est le problème apparent. Maintenant, il faut que je passe à l'autre stade. Je rassemble des informations pour savoir pourquoi ça arrive. Et je me rends compte que ça arrive parce que la bonne dame est démotivée. Elle est démotivée, son salaire est minable. Donc, vraiment, elle ne s'en sort même pas. Donc, à la limite, elle s'en fiche de ceux qui viennent. Que la société marche ou pas, elle s'en fiche. Vous avez vu le problème. On mange à chacun au bureau. Maintenant, ça, c'est le problème apparent. Je dois rassembler les informations. Pourquoi on le fait? Et je continue. Et ensuite, j'arrive à définir le vrai problème, c'est que peut-être il y a un problème de salaire ou il y a un problème de formation. Quand j'ai le vrai problème, je vais maintenant adopter et proposer les solutions possibles. Et dans les solutions possibles, il n'y a pas une seule solution. On peut dire j'ai deux ou trois solutions à proposer. Et j'ai fait une analyse comparative des coûts et des avantages. Le coût et les avantages. Est-ce qu'il y a des risques? Ça coûte combien? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on les risque? Le bénéfice, les inconvénients. Avant d'adopter ma décision finale, c'est vrai dans le foyer, c'est vrai dans les services. Avant que je dise, je vais se battre avec ma femme ou vous êtes telle personne, il doit réfléchir. Peut-être qu'elle baille trop, elle crie trop. Elle fait pas là. Il y a un problème qu'elle pose. Ça, c'est pratique, hein. Mais si il la renvoie, on a trois gosses. Quelle femme qui va aimer mes enfants qui sont si turbulents? Quelle femme qui va les supporter? Qui va les aimer comme je les aime. Il y a un problème. C'est la comparaison. Je préfère celle qui bavarde, qui parle sur moi. Au moins, elle, ses autres, ses enfants, elle ne va jamais les tuer. Oui, je fais la comparaison, j'analyse. Oui, peut-être une qui est plus jeune, qui est plus fraîche, c'est vrai. Mais peut-être que dans sa famille, ils sont peut-être 20 ou 30. Donc, si je chasse celle qui est là, ils vont venir à 20 chez moi à la maison. Et je ne dois pas parler, parce que si je parle, ils vont dire, hey, tes enfants, c'est pour moi qui les nourris. Oui. Pour adopter la solution, vous faites une comparaison. Vous essayez. Si je prends telle solution, je perds quoi, je gagne quoi. Mais bon, on n'a pas le temps. On va continuer. Et ensuite, vous choisissez la meilleure solution et vous la planifiez. Vous planifiez la mise en œuvre de cette solution. Et quatrième chose qu'on a vu, nous avons vu maintenant le changement organisationnel. Dans la structure quelconque, hein, société, organisation, généralement, vous avez cinq entités. Et ces cinq entités-là, il faut savoir les traiter de manière tout à fait cohérente. Et que chaque entité doit avoir son intérêt. Par exemple, il y a les associés et puis les propriétaires. Ils sont sur le même groupe. Vous avez l'affaire propriétaire. Cherchez à savoir quelles sont les nécessités des associés qui sont avec vous dans l'affaire. Bon, si vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a aussi les clients. Quelles sont les exigences des clients? Quelles sont leurs attentes? Je vais montrer des exemples. Si une soeur a un magasin ou un restaurant, et puis les servantes négligent, elles sont là, elles traînent, elles sont là, elles viennent déposer comme ça les assiettes. Blanc, elles mettent les cuillères ici à gauche, les verres à droite, et c'est pas nettoyé. Il y a l'eau dans les verres. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui exige que ce soit propre. Donc vous voyez, tenez compte de l'exigence des clients, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi voir aussi les fournisseurs, ceux qui vous fournissent du poulet, du macharon, ça c'est dans le cas de restaurant. Mais si dans le cas de service, si c'est les paperasses ou bien dans les autres relations, voyez également l'intérêt des fournisseurs et cherchez à être crédible à l'égard des fournisseurs. On ne pourra pas le voir parce que même l'excellence doit être intégrée dans le cadre de la crédibilité. Dans l'excellence, on ne pourra pas le voir malheureusement ce matin parce que le temps est avancé. Quand on verra ça plus tard, on verra que dans l'excellence, il y a la crédibilité. Oh, vous savez que la crédibilité est composée de plusieurs éléments. La crédibilité, par exemple, impose le respect du temps, le respect du délai. Quelqu'un qui est crédible, il respectera le temps, il va respecter les délais. Celui qui est crédible, voit ce qu'on appelle l'expertise. Un expert, c'est celui qui sait où on trouve l'information et qui sait la donner au temps convenu. Il dit un mois pile, il vient apporter son résultat. Donc dans l'excellence, il y a la crédibilité, il y a aussi ensuite l'expertise. Mais on n'a pas le temps de voir cela. Donc vous voyez qu'avec les fournisseurs, il faut développer une sorte de crédibilité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le personnel. Bon, on va arriver au personnel après, mais il y a ce qu'on appelle les organisations concurrentes. Il se peut que dans le domaine, il y ait des concurrents. Ça peut être dans le service. Vous êtes tous sous-directeurs. Vous tous, vous aspirez à devenir directeur plus tard. Ne pensez pas que c'est mauvais, non. Cherchez à connaître la force et la faiblesse des autres concurrents. Vous réfléchissez. Qu'est-ce qui fait sa force? Celui qui a force de moi. Cette structure qui est dans le même domaine que moi, qu'est-ce qui fait sa force? Cherche à connaître, à la connaître, à lire ce qu'elle fait, à prendre des informations. Et maintenant, je cherche à faire ce qu'elle ne fait pas. Ou à améliorer ce qu'elle fait. C'est ainsi que je vais avoir du succès. Donc, je vais monter. C'est pourquoi vous voyez, les gens se pillent ici. Et c'est une vraie guerre. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, vous n'allez pas faire ça. C'est pas vrai. Hein? Le monde des affaires, ce monde des affaires, il faut dire amen avec moi. Absolument. Absolument. Ah oui. Si tu es une société, une structure, un cabinet, et que tu vois que ton cabinet a besoin de prospérer, de progresser, que tu peux débaucher quelqu'un, lui proposer plus, parce que la personne peut faire prospérer des affaires, ça le fait. Les banques débauchent les gens, les radios débauchent les gens, les télévisions débauchent les gens, les maisons débauchent les gens, tout ça. Donc le débauchage n'est pas en tant que tel mauvais. Parce que j'ai dit que si on a cet esprit-là, on peut penser que non, comme il est déjà ailleurs, ça dépend. Mais je dis que ça dépend de où tu vas arriver. Parce qu'il se peut que dans ta structure, à toi, tu as besoin d'une compétence particulière que tu n'as pas. Tu as fait comment? Tu as débauché un ingénieur. Tu as lui proposé plus d'argent afin qu'il fasse ce qu'il a fait ailleurs qui a fait son succès. Ça, c'est le domaine des affaires. Et les grosses boîtes travaillent comme ça. On passe de débauchage à débauchage. C'est ce qui rend aussi une affaire intéressante. C'est pourquoi il faut toujours tenir compte de vos structures concurrentes. Mais pour éviter aussi les débauchages aussi, il faut absolument aussi chercher à former ceux qui sont avec vous. Et ensuite, ça c'est le dernier point, c'est le personnel. Ceux qui travaillent avec vous, quelles sont leurs attentes? Quelles sont les perspectives que vous les offrez? Quelles sont les compétences qui sont développées? Est-ce qu'ils adhèrent à la vision? Parce qu'il faut toujours amener les autres à adhérer à votre vision. Et quand ils adhèrent à la vision, ils peuvent forcément aller de l'avant. Avant même de prendre une mesure quelconque, il faut que ces personnes qui travaillent avec vous soient d'accord avec la vision. C'est-à-dire, vous voulez expliquer la vision. Vous ne venez pas pour dire, moi, je suis le patron. Demain à 10h, on a une réunion extraordinaire. Parce que le lundi prochain, le travail commence à 7h30 ou à 8h ou à 7h. Et ça finit à 22h. Ils vont venir au travail. Pourquoi? Parce qu'ils te craignent. Pourquoi ils vont adhérer à la vision? Jamais. Ils vont saboter le boulot. Ils n'ont pas adhéré. Mais si vous leur dites, je veux que désormais on travaille de 8h à 20h. Parce qu'il y a ça, il y a tel enjeu. Je veux que le chiffre d'affaires passe de 1 à 2 à 3. Et parce que si nous le faisons, voici chacun. Voici ce que chacun aura. Votre salaire passera de 1 à 2. Tout le monde sera. Ah, oh, augmentation de salaire. Vos heures supplémentaires seront payées. Payées. Ils vont se motiver. Ils ont adhéré à la vision. Ils vont travailler comme des dingues. Parce qu'ils ont leur intérêt. Car ils ont adhéré à la vision. Cinquièmement, l'intelligence pratique, on l'a vu, qu'il faut maintenir une bonne image de soi. Avoir une image juste de soi, c'est croire en soi-même, au potentiel qu'on a reçu. Nous avons chacun d'entre nous aussi à reçu la part de Dieu du potentiel. Et ce potentiel souvent sommeille. À nous de le développer. La certaine personne, si on avait dit il y a 15 ans arrière, est-ce que tu as fait ceci? J'allais dire, je ne suis pas très sûr. Mais sur le terrain, vous vous rendez compte que le potentiel se trouve en vous. C'est pourquoi il faut avoir de vous une bonne image. Si vous-même vous méprisez, les gens vont vous mépriser. Si vous doutez de vous-même, on doutera de vous. Vous voyez, le fait d'avoir une image juste de soi vous permet de développer vos vrais sentiments et d'éviter la manipulation. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on va aller vers la fin maintenant. On va continuer aujourd'hui ce qu'on a pu voir hier. Il faut développer, donc ceux qui ont suivi, c'était un résumé pour vous, ceux qui n'ont pas suivi et qui étaient là hier maintenant, c'est la suite que je donne maintenant. c'est développer une grande épaisseur psychologique et émotionnelle. Dans l'intelligence pratique, il faut développer une épaisseur psychologique et émotionnelle. Ou en clair, avoir une sorte de solidité émotionnelle et psychologique. Parce que dans la vie et sur la route du succès, il y a des grandes tensions. Il y a des grandes tensions. Si vous n'avez pas une grande solidité psychologique et émotionnelle, vous n'allez pas pouvoir résister. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut être en mesure de supporter les souffrances émotionnelles. Parce qu'il se peut qu'il y ait des persécutions. Il se peut qu'il y ait des obstacles majeurs. Il se peut qu'il y ait des pressions. Il ne faut pas céder. Il faut les supporter. Il faut avoir du coffre. Il faut résister. Regardez au niveau militaire. Pourquoi tout le monde ne veut pas militaire? Mais ils subissent des sévices importants. Un militaire, quand vous voyez les militaires, il faut les respecter. Ben, c'est qu'ils subissent là. Oh. Il y en a qui démissionnent. Ils appellent ça quoi? Le preuve de qui là même fait. Souvent, vous voyez la télévision. Il faut passer par les eaux. Il faut grimper. Il faut sauter. Il faut manger ceci. Il faut passer par là. Si tu n'as pas... c'est même pas physique d'abord. Hein, c'est d'abord émotionnel. Si psychologiquement, tu ne résistes pas, on dit, monsieur, tu n'es pas qualifié pour être militaire. Et il semble que les officiers, ils ont un traitement différent. Encore plus dur. Parce que si un officier supérieur de l'armée est arrêté par l'ennemi, s'il n'est pas capable de supporter les sévices émotionnels, qu'est-ce qu'il va faire? Il va livrer quoi? Les secrets. Ouais, on ne monte pas à un niveau supérieur parce qu'on ne peut pas résister aux pressions. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas le succès souvent? Parce qu'un leader, quelqu'un qui vise le succès, doit être capable, ouais, à chaque dimension correspond des épreuves. Certaines personnes échouent aux épreuves. Elles sont disqualifiées. Elle dit, oh Dieu, bénis-moi. Permets que je sois élevé, que je sois grand, que j'ai du succès. Dieu lui envoie une petite épreuve. Elle commence à maudire les hommes, à maudire le pasteur, à maudire l'église, à maudire les gens. Elle est disqualifiée. Elle ne tiendra pas le coup. Le fils de Dieu lui-même, avant de connaître la gloire, il est passé par où? Il est passé par Gethsémani. Il est passé par Gethsémani. Gethsémani était une souffrance morale, émotionnelle et psychologique. Gethsémani n'a pas été frappé. Il a été frappé plus tard, dans la cour. Mais pas Gethsémani. Il sentait une pression morale, émotionnelle difficile. Il a dominé cela. Et quand Christ a vaincu Gethsémani, quand Jésus a vaincu Gethsémani, il a vaincu la croix. Il faut dire amen avec moi. Vous ne pourrez pas triompher si vous ne pouvez pas supporter des pressions psychologiques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas compétir avec vous dans vos douleurs. Non. Mais ça arrive à tous les hommes qui sont prévus ou destinés à des grands rôles. Ils passent par des fournaises ardentes. Rappelez-vous Daniel et ses compagnons. Quand Daniel, ils sont passés par la fournaise ardente. Donc, le fait de développer une grande solidité psychologique vous permettra d'avancer et de connaître le succès. Ça, ça fait les hommes. Ça forme le caractère. Deuxième chose aussi, nous toujours au niveau de l'épaisseur psychologique et émotionnelle. Il faut savoir résister et faire face aux échecs et aux rejets. Il se peut qu'il y ait des échecs dans tous les domaines. Dans le travail, dans les affaires, dans le commerce, dans les études, dans le mariage, dans le voyage. Non, ouais, dans la vie de l'homme, il y a tout ça. Il y a les échecs, il y a les rejets. Mais c'est comment vous comportez en face de l'échec et du rejet. C'est ça qui est important. Si on veut monter à un certain niveau, il faut être capable de faire face à l'échec et au rejet. À résister au rejet. À résister à l'échec. Vous encaissez le coup. Vous supportez le coup. Vous dites, je ne baisserai pas les bras. J'avancerai. Vous voyez, dans cette attitude-là, vous serez vainqueur. Parce que justement, il va y avoir cette situation-là. Il faut aussi supporter, dominer l'incompréhension. Il se peut qu'il y ait des phases incroyables d'incompréhension. Oh, on ne me comprend pas. Vous êtes un substitut, on ne vous comprend pas, vous démissionnez. Vous êtes un échec. Parce qu'on ne vous comprend pas, et parce qu'on ne vous donne pas, vous démissionnez. Oh, on ne me comprend pas, ou parce que j'ai l'intérêt du pays, je démissionne. Vous ne pouvez pas avoir le succès. C'est pourquoi j'insiste sur cet aspect-là. Être à mesure de résister devant l'incompréhension, même de ceux qui sont avec vous. Ensuite, être capable aussi de dominer l'absence d'organisation. Il se peut que là où vous êtes, les choses ne soient pas aussi organisées comme vous le souhaitez. Il y en a qui sont très méticuleux et qui en même temps veulent le succès. Et ce truc se trouve qu'ils sont dans une structure qui ne sont pas organisée. Elle démissionne. Ça, c'est une erreur. Qui va apporter l'organisation si ce n'est pas vous? Vous devez être capable, dans l'inorganisation, dans le désordre ou dans l'absence d'organisation, d'apporter la planification. Ça vous de dire, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire cela? Mais on n'a pas le temps, malheureusement. Vous devez être capable aussi de supporter la souffrance physique. Elle peut être physique, la souffrance là. Elle peut être physique, la souffrance. Vous la supportez. Vous la supportez. Elle peut même être spirituelle. On peut s'attaquer à vous au niveau spirituel. Pour que vous détruire, puisez votre source dans le Dieu tout-puissant, l'éternel. Et vous permettra de vaincre, de dominer les pressions spirituelles contre vous et de régner avec lui. Amen. Ça, c'est important, ça. Vous voyez, tout cela permet de fonctionner de manière tout à fait normale. Vous voyez, tout cela permet un fonctionnement efficace. Et septième chose, et sur laquelle on va s'arrêter maintenant, parce qu'il est l'heure, on n'a même pas fini même. Toujours, on va continuer tout petit peu dans les pressions psychologiques. Dans les pressions psychologiques, vous voyez, le cerveau humain est divisé en deux. Je vais en parler, mais plus tard dans l'excellence. Je vais revenir sur cela plus tard parce qu'on peut le mettre dans l'excellence, mais je vais quand même en parler un tout petit peu. Le cerveau humain est divisé en deux. Il y a l'hémisphère nord, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère du raisonnement, tout ce qui est logique. L'hémisphère droite, c'est l'hémisphère de l'intuition. Il a démontré aujourd'hui que ceux qui réussissent sont ceux qui souvent arrivent à obéir à leur intuition. L'aspect raisonnement est logique. Mais il y a des fois où on n'a pas une réponse claire. Mais c'est pourquoi, moi je l'ai vu plusieurs fois, quand des riches, des gens qui sont importants, doivent prendre des décisions importantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Vous avez jamais remarqué ça? Ils se coupent de tout. Ils vont seuls, isolés. Ils font quoi? Ils vont avec rien du tout. Quand ils ont eu les conseils de tous les experts, ils ont eu tous les conseils qu'il faut. Ils doivent maintenant prendre la décision importante pour la société ou pour la famille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Ils réfléchissent. Et puis à un moment donné, ils ressentent comme une intuition dans le cœur, une lumière. Ils disent, ça y est, ils écrivent la solution. Quand ils ouvrent la bouche, ils disent, on fait ceci, ça marche. C'est pourquoi? Oui, l'intuition est importante. Mais on n'a pas le temps de vous voir cela aussi. Il y a le fait aussi, dans la pensée psychologique, on va revenir sur ça plus tard, il y a le fait de savoir se motiver. Savoir se motiver. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Oui, savoir se motiver. Faire partie des pensées psychologiques qui obéit aussi au principe, qui obéit aussi à la pratique de la sagesse et de l'intelligence. Savoir se motiver. Oh, ça va aller, je vais réussir. C'est difficile, je me motive. Gadi Abraham, vas-y, aie du courage. Tu te parles à toi-même, tu dis ton nom. Je m'appelle Rosine, je m'appelle Cécernique, je m'appelle je vais réussir. Je vais y aller, ça va aller. Vous parlez vous-même. Vous adressez à vous-même des paroles et vous encouragez vous-même. Alléluia. Et la septième chose, quand on va au niveau de la mise en œuvre pratique de l'intelligence et de la sagesse, c'est l'aspect physique maintenant. Développer une bonne santé physique. Ça n'a rien de rien, mais ça va être important après. Je dis quelque chose qui va vous faire rire. Dans la mise en œuvre pratique de l'intelligence et de la sagesse en vue du succès, l'aspect physique compte énormément. Ça va garder une bonne santé. Ça va manger de manière équilibrée. Ça va garder la forme. Ça va développer des bonnes attitudes de travail. Et ça va aussi se reposer quand il faut se reposer. Ça n'aide de rien, mais c'est important. Vous voyez, quand quelqu'un est fatigué, il n'a plus le flux intellectuel pour réfléchir. Il a démontré que beaucoup de personnes meurent de fatigue. Parce que dans le flou, dans le lent du travail, elle ne prend pas du recul pour se reposer. Je n'ai pas dit passer du bon temps. Elle qui se repose toute l'année. Tous les jours, il regarde film et se repose tout le temps. Il ne peut pas de cela. Non. Vous avez travaillé dur le week-end, vous reposez. Parce que vous faut la force pour pouvoir repartir de bons pieds dans la semaine. Donc, vous faites du sport, vous faites du récréatif, de bien manger, vous permet d'avancer. Le temps, malheureusement, est arrivé. Je dois m'arrêter là. On ne peut pas voir l'aspect excellence. J'ai brodé quelques aspects. On verra ça plus tard. Comment dans l'excellence, nous touchons à ce qu'on appelle les compétences, c'est-à-dire que la crédibilité et tout le reste. Comment on développe l'expertise et tout cela. Nous verrons cela. Mais que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Amen.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.